Situation de précarité. Aujourd'hui, grâce à Don Solidaire, Alia n'a plus à choisir entre manger ou acheter des couches pour sa fille. Chloé peut aller en cours sans crainte, même si elle a ses règles. Rejoignez notre chaîne de solidarité sur donsolidaire.fr.
Il est 14h sur Europe 1. Guillaume Lariche pour les infos.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Un accident de manège mortel la nuit dernière dans une fête foraine à Blois. Éjectée d'une attraction peu après à 23h, une jeune femme de 27 ans n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête judiciaire a été ouverte. La fête foraine installée au parc des expositions de Blois devait prendre fin ce soir. En raison des circonstances et par respect pour la victime, elle n'ouvrira pas ses portes ce dimanche. À Paris, une grande marche antiraciste doit partir d'une minute à l'autre depuis Barbès pour rejoindre la République. Une cinquantaine d'organisations représentées, dont LFI ou encore le nouveau parti anticapitaliste. Après avoir été interdite par la préfecture pour risque de trouble à l'ordre public, la marche a finalement été autorisée ces derniers jours par le tribunal administratif. Dans Europe 1 Midi Week-end, présenté par Cédric Chasseur, le député de Renaissance des Yvelines, Carl Olive, souhaite que le défilé puisse se faire dans le calme.
Je crois à la liberté d'expression. Il faut se battre pour toutes celles et ceux qui doivent s'exprimer. Et à ce titre-là, j'ai presque envie de dire que je suis pas choqué sur le fait qu'il y ait cette manifestation. Maintenant, cette manifestation, elle doit se dérouler en ordre, en respectant effectivement les règles, qu'il n'y ait pas de black bloc, pour que ce soit fait en responsabilité. Et j'appelle tous les organisateurs, et ceux de la France Insoumise, à faire en sorte que cette manifestation, pour le moins, se passe bien. Mais ne comptez pas sur moi pour dire que il faut interdire cette liberté d'expression. Moi, je me bats pour que ces gens-là puissent s'exprimer, quand bien même je suis leur premier opposant politique.
Et dans cette grande marche contre le racisme, le syndicat Alliance Police s'attend à un rendez-vous tendu, puisque certains devraient vouloir s'opposer aux forces de l'ordre. En réponse aux multiples agressions la nuit dernière impliquant souvent des adolescents, faut-il généraliser un couvre-feu pour les mineurs dès 23h à l'ensemble des villes de France? C'est oui pour 67% des Français interrogés dans notre sondage. CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Après une semaine de tensions au Moyen-Orient, suite à l'attaque de drones et de missiles par l'Iran sur Israël, les deux pays semble s'éloigner d'une escalade. L'État hébreu, qui a reçu hier un soutien financier des États-Unis par la Chambre des représentants, l'aide militaire de plusieurs milliards de dollars doit encore être approuvée par le Sénat américain, probablement mardi prochain. Le Sénat devra aussi valider les 61 autres milliards de dollars pour l'Ukraine. Son président, Volodymyr Zelensky, estime que l'argent sauvera des milliers de vies. La Russie pense au contraire que l'aide tuera encore plus d'Ukrainiens. 6 matchs de football ce dimanche pour la 30e journée de Ligue 1. Les 3 premiers à partir de 15h tout à l'heure avec Le Havre-Metz, Lille-Strasbourg et Metz-Montpellier. Ensuite, Brest-Monaco 17h05, Toulouse-Marseille 19h et en clôture PSG-Lyon à partir de 21h. Du rugby, plus qu'un seul match à jouer après les victoires hier de Castres, Racing 92, Perpignan, Stade Français et Pau. Ultime rencontre de cette 21e journée avec Bordeaux-Bègles-Clermont ce soir à 21h05. Enfin, la Formule 1, le leader du championnat du monde, Max Verstappen, a remporté le Grand Prix de Chine. Le Néerlandais a signé à Shanghai sa 4e victoire de la saison en 5 courses. Il en reste 19. Prochain Grand Prix à Miami le 5 mai.
Europe 1.
Europe 1, 14h03. Bon après-midi avec Christophe Ondelat pour Ondelat raconte.
Europe 1, 14h-15h. Ondelat raconte.
Bonjour à tous. On sait que porter plainte quand on est une femme battue est un parcours du combattant. Mais c'est encore beaucoup plus compliqué quand on est la compagne d'un gendarme. C'est l'histoire d'Alizé Bernard que je tire du livre qu'elle publie chez Grasset avec Sophie Boutboul, Silence, on cogne. C'est donc votre histoire, Alizé. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Dans ce livre, qui est une enquête sur les violences conjugales subies par les femmes de gendarmes et de policiers, vous racontez votre propre histoire, qui est édifiante. La voici, je l'ai écrite avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Nos regards se croisent pour la première fois durant l'hiver 2005, dans une boîte de nuit. J'ai 18 ans et lui 15 de plus. Il me parle à l'oreille, il me fait rire. À un moment, nos mains se frôlent. Et à la fin de la soirée, je pourrais avoir ton numéro ? Non, pas maintenant. La différence d'âge ? Moi, je vis encore chez mes parents, et lui, il est en instance de divorce, et il a déjà un enfant. Franchement, je ne vois pas ce qu'on a en commun. Pendant un mois, il revient souvent dans cette boîte de nuit. T'accepterais de passer une soirée avec moi ? C'est charmant, tous ces efforts qu'il fait. Et puis, il me plaît bien. Alors, je finis par céder, et début 2006, nous dînons tous les deux. Je me souviens, il fait très froid, je suis collé au chauffage du restaurant. La soirée est agréable, mais on est trop différents. Je suis lycéenne, je passe mon bac, et lui, les gendarmes et papa. J'écoute du Martin Solveig. Et lui, il écoute du Renault.
À part ta peau de sirène, à quoi toucher ? À l'outil taillé dans le chêne ou l'olivier ?
On est beaucoup trop différents. Cela dit, on a aussi des points communs. Et petit à petit, je tombe amoureuse. La première fois que je vais chez lui, à la caserne, j'ai l'impression d'entrer dans un petit village clôturé. Je gare ma voiture sur le parking visiteur, premier poste de garde, puis second. Vous pouvez me donner votre nom, prénom, carte d'identité, numéro d'immatriculation, s'il vous plaît, merci. Et dans le hall, une plaque émaillée. Les chiens sont autorisés, les femmes sont tolérées. Oh, t'inquiète pas, c'est comme ça dans tous les bâtiments. Quelques temps plus tard, il m'invite à passer une semaine à la caserne. Il vient me chercher chez moi, et moi, je ne veux pas qu'il rencontre mes parents pour l'instant. Donc je lui ai demandé de m'attendre dans la voiture. Je suis en train de terminer ma valise à l'étage. Je l'entends qui frappe à la porte.
Ah bonjour madame, je suis un ami de votre fille. Vous inquiétez pas, hein. Je vais faire attention à elle.
C'est trop tôt, ça me gêne. Mais je l'aime, je l'admire, et pour lui, je suis la plus belle, la plus intelligente, la femme de sa vie, la huitième merveille du monde. Son premier déplacement, pour une mission de renfort et de maintien de l'ordre, dure un mois. Il m'envoie des messages tous les jours. Et si je sors avec des amis, il s'inquiète. Alors pour le rassurer, je ne mets plus le nez dehors jusqu'à son retour. En septembre 2006, moi je démarre un BTS. Je dors dans son appartement de plus en plus souvent et je finis par m'installer chez lui. Et là il m'explique les usages de la vie en caserne, les règles officieuses.
C'est une petite communauté, tu vois, ici. Bah, il faut dire bonjour à tous ceux qu'on croise. Mais pas trop parler aux femmes hein, qui se regroupent en bas avec les enfants. Tu verras, ce sont des commères. Elles font beaucoup d'histoires. Hein. Elles sont capables de semer la cisanie dans notre couple. Hein. Avec les hommes aussi, tu discutes pas trop. Hein. Sinon, tu vas vite avoir une réputation d'allumeuse. À part ça, on ne ferme jamais la porte chez nous. On ne risque rien. Et puis, les cloisons sont maigrelettes. On entend tout ce que font les voisins. Quand ils déjeunent, quand ils vont aux toilettes, quand ils mettent en marche leur sèche-linge. Il faut faire avec.
14h, 15h,
Ondelatte raconte sur Europe 1.
Passez un bon dimanche après-midi sur Europe 1. Christophe Ondelatte et Ondelatte raconte reviennent dans un instant, juste après un peu de musique, avec l'une des introductions les plus marquantes de leur répertoire. Voici Come Together, les Beatles, sur Europe 1.
Shoot. Shoot. Shoot.
Come Together, c'était les Beatles sur Europe 1. C'était la toute première chanson d'Abbey Road, le 11e et dernier album inédit du groupe britannique. Et c'était aussi l'une des chansons préférées de leur producteur, George Martin. On retrouve Christophe Ondelat pour la suite d'Ondelat raconte sur Europe 1.
Europe 1, 14h-15h, Ondelat raconte.
Je vous raconte l'histoire d'Alizé Bernard, victime de violences conjugales et dont le compagnon, violent, était gendarme. Une histoire que je tire du livre qu'elle co-signe avec Sophie Boutboul chez Grasset, « Silence, on cogne ». Alizé rencontre son compagnon en boîte de nuit alors qu'elle a 18 ans et lui 15 ans de plus et déjà un enfant. Elle en tombe amoureuse et finit par s'installer chez lui, à la caserne. Au printemps 2008, je le rejoins en Martinique, où il est en mission. Et le jour de mon départ pour Paris, parce que soi-disant, il veut profiter de moi le plus longtemps possible, il m'emmène à l'aéroport au dernier moment, en voiture de gendarme, avec le gyrophare. Je trouve ça bizarre. Il fait ce qu'il veut. Il est censé faire respecter la loi, il ne la respecte pas. Et en même temps, je me dis, c'est pas trop grave. Au début de l'été, on est en voiture, l'air est doux, je baisse la vitre côté passager. Depuis quelque temps, il y a quelque chose que je ne supporte pas. Il continue de voir une de ses ex. Non mais tu comprends, je peux plus vivre avec une autre femme, enfin, qui est si présente dans notre couple. Je peux plus. Si ça continue, je te quitte. Et là, bam, coup de poing sur ma joue gauche. Je suis ébloui, sonné. Arrête-toi! Je veux descendre de la voiture. J'ouvre la portière, je me laisse tomber dans le fossé. C'est la première fois qu'un homme me frappe. Je suis complètement paumé. Je sors mon téléphone. Je veux appeler un taxi, mais je ne sais même pas où je suis. Il se gare plus loin. Il revient vers moi. Je suis désolé. Je m'excuse. Allez, remonte dans la voiture. C'est dangereux de rester sur le bord d'une route toute seule. Je remonte. Allez, c'est bon, calme-toi, t'as rien. Si, j'ai mal. Amène-moi à l'hôpital. Je t'amène chez le médecin de la caserne. Le docteur en question ne peut rien faire pour moi. Alors il rédige un courrier pour les urgences de l'hôpital. Et à l'hôpital, moi je ne peux pas parler. C'est lui qui parle. Je suis gendarme, là, à la caserne d'à côté. J'entraînais ma compagne à la boxe pour lui apprendre des techniques de combat. Bah, elle s'est mal protégée. Elle a même monté sa garde. Elle a pris un mauvais coup. Ils s'y reprennent à plusieurs fois pour remettre ma mâchoire en place. Je ne peux plus ouvrir la bouche. Un certificat médical atteste que j'aurai des problèmes d'élocution pendant 21 jours. 3 semaines. Et demain, j'ai l'oral d'anglais de mon PTS. On rentre à la maison. Il file acheter des médicaments et faire des courses. Il revient avec des parfums.
J'en veux pas de tes parfums. Je suis pas à vendre.
Il s'excuse. Il s'effondre. Il pleure.
Mais t'es la femme de ma vie, putain. Je t'aime trop. J'ai pas voulu te faire mal.
Je lui dis que je ne peux pas rester avec un homme violent. Je lui dis, tu recommenceras, tu me fais peur. Et lui promet que ça ne recommencera pas, qu'il va prendre sur lui. Est-ce que c'est le fait qu'on habite en caserne qui me retient de partir? Je reste. Je le crois. Je l'aime aussi. J'ai passé mon examen sans pouvoir ouvrir la bouche. Je leur ai montré mon certificat médical pourtant. Lui, il l'avait jeté à la poubelle, je l'avais récupéré. Et pourtant, adieu mon diplôme. On m'a proposé un poste de chargé de clientèle dans une grande ville. Il ne veut pas. Il a peur que je rencontre trop de monde, que je me fasse draguer.
Ah, je sais pas, trouve quelque chose. Je sais pas, plus près de chez nous, quoi. qu'on pense à la famille qu'on veut construire.
Il règne sur mon existence, désormais. Il ne veut plus que je fume non plus. Il veut que je fasse du sport. Et moi, je n'ai pas encore compris la puissance d'un uniforme. Il a recommencé, bien sûr. À coup de claque, je me suis retrouvé bloqué entre le canapé et la table basse. Les voisins ont entendu, sans doute. Il n'a pas l'air très inquiet.
Ah ! Tu sais, à la caserne, beaucoup d'hommes frappent leurs femmes.
Et puis, il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit « Tu es la femme de ma vie ». Il m'a dit « Je t'aime trop, c'est pour ça que je te frappe ». Il m'a expliqué qu'il avait du mal à gérer son travail, qu'il avait beaucoup de pression, qu'il allait quitter la gendarmerie mobile. Et moi, je me suis raccroché au fait qu'il m'aimait. Je suis enceinte. Je suis heureuse.
Ah ben dis donc, qu'est-ce que t'es grosse? Qu'est-ce que c'est moche une femme enceinte?
Il a recommencé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Bim! Il me frappe. Il a recommencé encore sur la tombe de ma grand-mère. Je sais pas, il a dû trouver que je me recueillais trop. Il m'a pris par les cheveux. Il m'a traîné sur le gravier sur plusieurs mètres. Notre fils est né. Je suis au lit, je l'allaite. Il regarde un film d'action à la télé.
Tu peux baisser un peu?
Bim!
Oh, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire.
Une autre fois, il me frappe. Je lui dis,
je vais te quitter. Je vais aller à la gendarmerie dire ce qui se passe. Ah ouais? Moi, je pense qu'ils me croiront, moi. Hein? Quoi qu'il arrive, j'ai 16 ans de gendarmerie, je te rappelle. Et je suis assermenté.
Je suis piégé. À la fin de mon congé maternité, je ne reprends pas le travail. Ça m'isole encore plus. En 2013, j'appelle pour la première fois le 3919. Mais j'ai trop peur qu'il l'apprenne, alors j'en reste là. Cette année-là, je découvre aussi qu'il a des maîtresses. Je le lui dis, il me roue de coups. Et là, je rappelle le 3919.
Madame, je vais vous donner un conseil. Recueillez des preuves, hein. Le plus de preuves possible.
À partir de là, je me mets à l'enregistrer avec mon téléphone quand il m'agresse. En février, devant toute ma famille, il me demande en mariage. Devant les autres, je joue le jeu. Mais quand on est en tête à tête, je lui dis non. Non! Je suis pas un chien à qui on balance un sucre pour lui faire plaisir.
Europe 1 matin, Dimitri Pavlenko.
Bon réveil avec Europe 1 au programme ce matin.
Bienvenue et bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci de votre présence.
Elle aurait dû fêter ses 14 ans. La petite Shannon, 13 ans, sera enterrée demain.
Shemseddine battue à mort pour avoir osé échanger des messages connotés sexuellement avec la sœur de deux des assassins présumés.
L'incapacité de l'État royal à tenir les comptes publics a entraîné en 1789 le plus grand cataclysme de l'histoire de France.
Souhaitez-vous un référendum sur la politique migratoire? Vous dites oui à 69%.
Tout le monde est content. Les Iraniens ont défié le petit Satan. Israël a démontré l'efficacité de son dôme de fer.
On en apprend des choses sur Europe 1. À demain matin, 7h-9h sur Europe 1.
Visio Confucius. Tu vois, toi qui travailles à ton compte, la mutuelle de demain te permettra d'être indemnisé si t'es arrêté.
Ok, ben ta mutuelle de demain m'aurait bien servi aujourd'hui en fait. Parce que là, mes clients, ils comprennent rien à ce que je dis.
Être obligé de travailler quand on est arrêté, c'est du passé. Avec Aesio Mutuel, les professionnels bénéficient de garanties santé ou prévoyance adaptées à leur statut, comme l'indemnisation perte de revenus en cas d'arrêt de travail. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Informations et conditions en agence ou sur aesio.fr.
Europe 1, 14h, 15h, on de la traconte.
Je vous raconte l'histoire d'Alizée Bernard, victime de violences conjugales et dont le compagnon violent était gendarme. Une histoire que je tire du livre qu'elle co-signe avec Sophie Boutboul chez Grasset, « Silence, on cogne ». Alizée rencontre son compagnon alors qu'elle a 18 ans et lui 15 ans de plus. Elle en tombe amoureuse et finit par s'installer chez lui à la caserne. Il se met à la frapper régulièrement et quand elle menace de porter plainte, il rappelle qu'il est gendarme et assermenté. Le samedi 16 avril 2016, énième dispute. Heurté par un coup de pied, je tombe sur la poubelle de la cuisine. J'essaye de me relever. Je n'y arrive pas. Et là, il me soulève en me tenant par le cou. Il me bloque la tête et le buste contre l'évier. Il a un couteau dans sa main droite. Un couteau. Je sens la lame froide sur le haut de mon crâne et son autre main qui m'étrangle. Je vais te buter. À ce moment-là, j'entends notre fils de 5 ans à l'étage. Qu'est-ce qui va arriver s'il me retrouve en sang dans la cuisine? Il finit par desserrer ses mains. T'es malade? T'es complètement malade? Il faut que tu t'en ailles. C'est plus possible de vivre comme ça. Je vais appeler la gendarmerie. Ça peut plus continuer comme ça. Arrête. T'es encore en vie. Ça va. Et puis va le prouver. Hein? Va le prouver, ma vieille, que je t'ai menacé avec un couteau. T'as une marque? T'es coupé? Tu saignes? Non. Alors t'as qu'à les appeler? Et puis moi je dirais que c'est toi qui m'as menacé avec un couteau, hein? Je dirais que t'es folle. J'ai appelé la gendarmerie. Je leur ai dit que je ne voulais pas d'intervention, que je voulais juste qu'ils gardent une trace de mon appel et que je lancerai une procédure après le week-end. 2 heures après, j'entends des voitures arriver dans notre impasse, je regarde par la fenêtre, c'est la gendarmerie. 8 gendarmes. Il frappe, c'est lui qui leur ouvre. Coucou, entrez, je vous en prie. C'est la miss qui vous a appelé. Vous voulez boire quelque chose? 2 gendarmes s'isolent avec moi. Je leur raconte tout. Le couteau, l'étranglement, les insultes. Je leur dis que j'ai un enregistrement de tout ça. Enregistrement dans lequel il reconnaît qu'il m'a étranglé et menacé avec un couteau. Et de toute façon, il voit bien les rougeurs sur mon cou. Une demi-heure plus tard. Bon, madame, il a trouvé un endroit pour dormir. Il n'est pas placé en garde à vue. Je n'y crois pas, je suis sans voix. On vous auditionnera demain, ok? Je vous appellerai demain matin pour vous dire à quelle heure. S'il revient, vous nous appelez, bien sûr. Quand ils sont partis, je me barricade dans la maison. J'ai peur qu'ils reviennent dans la nuit. Je m'assois sur une chaise dans le salon face à l'entrée. Je fixe le portail avec un couteau à portée de main et une gazeuse. Le lendemain, j'arrive à la gendarmerie, je tremble. Je m'installe dans la salle d'attente. Et là, il arrive. Et il s'assoit en face de moi.
T'es une belle salope, hein, d'avoir fait des enregistrements. Comment? Comment tu sais ça, toi?
Pas de réponse. Pourquoi ils m'ont donné cette information? Qui est à l'origine de cette fuite? Ils veulent le protéger? Il est interrogé par le directeur d'enquête et moi par une gendarme dans un bureau étroit. Et régulièrement, le directeur d'enquête vient prendre connaissance de mes déclarations.
Vous voulez porter plainte, madame? Je ne sais pas encore. Il faut que j'en parle avec ma famille, je veux être sûr d'avoir leur soutien. Vous savez, madame, il risque de perdre son travail. Le mieux serait sans doute d'en rester là, non? Vous vous séparez, vous faites les choses intelligemment pour votre fils et... Vous voulez porter plainte alors? Je peux prendre un peu de temps pour réfléchir? Je vous recontacte demain, c'est possible?
Et là, ils impriment le procès-verbal. Je le relis. Il n'est pas mentionné qu'il a utilisé un couteau. J'insiste pour que ce soit écrit noir sur blanc. Il l'ajoute. Je signe. Le gendarme s'isole avec moi.
Il faut que vous vous concentriez sur le bien-être de votre fils, madame, non? Séparez-vous proprement. Vendez la maison. Je sais pas, refaites votre vie.
Quand on arrive à la maison, il me tend un papier qu'il a dans la main. C'est une composition pénale qui consiste en une amende de 250 euros.
Tu vois, je m'en sors le cul propre, hein, grâce à mon pote.
Je suis allé voir mes parents. Je vais déposer plainte. Le lendemain, j'appelle le chef d'enquête pour le lui dire.
Ah mais ça n'est pas possible, madame. Le procureur s'est déjà positionné. Il sera convoqué dans quelques semaines.
Je peux peut-être porter plainte, je sais pas moi, pour les autres faits de violence. Je suis allé aux urgences plusieurs fois.
Ah non, madame, non. Non, ça c'est pas possible non plus. Hein. Votre procès-verbal englobe tout, madame.
Mais j'ai pas parlé de tout hier.
C'est comme ça, madame.
J'éclate en sanglots. Refuser une plainte, c'est illégal. Mais ça, je ne le sais pas. Et j'apprendrai plus tard qu'ils auraient dû me rappeler 48 heures après pour me redemander si je voulais porter plainte. Ils ne l'ont pas fait. Deux semaines plus tard, je suis en rendez-vous avec mon avocate. Il m'appelle, il me laisse un message.
Heureusement que je connais du monde, hein. Je vais m'arranger. Alors là, ne fais pas de coups, hein, parce que là, ça va vraiment mal se passer.
Je fais écouter l'enregistrement à mon avocate.
Là, vous allez tout de suite porter plainte, hein. Et surtout, vous faites bien une plainte, hein. Pas un renseignement judiciaire, pas une main courante. Et si on me refuse? C'est impossible qu'on vous refuse.
Et pourtant, à la gendarmerie, ils refusent. Et ils appellent devant moi la brigade où je suis allé le jour du couteau. Et j'entends tout.
Allô? Oui, aidez-moi, j'ai Madame Bernard devant moi, là. Elle veut déposer plainte. Tu connais le monsieur, hein?
Oui, oui, je le connais. Écoute, prends un renseignement judiciaire, hein. Surtout pas une plainte.
Il m'a donc imposé un renseignement judiciaire, ce qu'on appelle une main courante, qui a ensuite totalement disparu de la base informatique de la gendarmerie.
On marque une nouvelle pause musicale au cœur de ce numéro d'Ondelat raconte. La voix de Christophe Ondelat va passer le relais à l'une des plus belles chansons mélodieuses du boss. On écoute Bruce Springsteen avec Secret Garden sur Europe 1. Got a hammer in a vice. C'était un titre inédit à l'époque, figurant sur la toute première compilation de Bruce Springsteen, sortie en 1985. On va d'ailleurs bientôt fêter ses 40 ans. C'était Secret Garden. L'histoire récitée par Christophe Ondelat n'a plus de secret pour vous. En revanche, depuis 14 heures, la suite du récit, c'est maintenant sur Europe 1.
Europe 1, 14h, 15h, Ondelat raconte.
Je vous raconte l'histoire d'Alizé Bernard, victime de violences conjugales et dont le compagnon violent était gendarme. Une histoire que je tire du livre qu'elle co-signe avec Sophie Boutboul chez Grasset. Silence, on cogne. Alizé rencontre son compagnon alors qu'elle a 18 ans et lui 15 ans de plus. Elle en tombe amoureuse et s'installe chez lui, à la caserne. Il se met à la frapper régulièrement. Un jour, il l'agresse avec un couteau. Elle veut porter plainte, mais les gendarmes qui l'accueillent la forcent à accepter une main courante. Toutes les brigades et tous les commissariats de police ont l'obligation de recevoir les plaintes. Mais moi, on m'a tout refusé. Jusqu'à ce que je rencontre une avocate, Nathalie Tomasini. Elle a appelé.
Vous ne pouvez pas lui refuser une audition. Hein? Non, monsieur, non, non. C'est la loi. La loi du 15 juin 2000, monsieur. Demain, qu'on soit clair, hein, elle viendra déposer une plainte. Hein. D'accord.
L'accueil des gendarmes a été correct. On a repris toute la chronologie des faits depuis le premier coup de poing. Ils m'ont donné un récépissé de ma plainte et une convocation pour une unité médico-judiciaire. Tout ce qui aurait dû être fait il y a 2 mois. En octobre 2016, on me confronte à lui dans un poste de police. On ne se regarde pas.
Vous vous rendez compte, monsieur, que vous avez utilisé des techniques de combat sur votre compagne? J'ai rien fait du tout. Elle a aucune preuve de tout ça. Elle s'est fait ça d'elle-même.
Il nie tout ce pourquoi je n'ai pas fait de certificat médical. Il ne sait pas que j'ai des enregistrements et que je les ai fait retranscrire. Je les donne à la policière et je sors de cette confrontation épuisé. Son procès a lieu le 27 janvier 2017. Il est jugé pour 4 mois de violence seulement, alors que dans ma plainte, j'ai raconté 8 mois de coups. Le juge n'a retenu que les périodes au cours desquelles je suis allé aux urgences. Quand il arrive, il rigole. Il a l'air détendu. Moi, je suis au bord de l'implosion. Comment fait-il pour être aussi serein? Des gens passent, il les salue. Il semble connaître du monde au tribunal. Il est interrogé à la barre.
Je suis conscient de mon problème. Mon problème, c'est mon agressivité. C'est le stress. Et le stress, on l'évacue de plusieurs façons. Et disons que pour moi, c'est physique, quoi.
J'aurais tellement aimé qu'ils disent « C'est vrai, j'ai pété un câble, elle a subi, je suis désolé », qu'il ait une once de remords, quoi. Mon avocate l'interroge.
Vous avez des titres en sport, n'est-ce pas, monsieur?
Ouais.
Je pratique des sports de combat depuis que je suis adolescent. Vous devez parfaitement savoir maîtriser vos coups avec toutes vos médailles. Mais non, hein. Vous êtes monsieur Hulk, une petite pitchounette et clac, fracture du nez. Vous avez des états de service excellents, monsieur. Des médailles d'honneur, des certificats en karaté. Vous avez plein d'atouts pour défendre la veuve et l'orphelin. Et vous? Eh bien, vous avez employé cette force pour vous en servir contre une femme qui fait la moitié de votre taille et de votre poids, et en utilisant votre fils comme un outil d'intimidation. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis, plus 18 mois de mise à l'épreuve et une obligation de soins. Il doit aussi me verser 2 000 euros au titre des souffrances endurées. Mais
ça ne sera pas écrit au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire. Il pourra continuer à travailler. C'est un traitement de faveur, parce que quelqu'un qui fait un excès de vitesse, on lui retire son permis, même s'il doit aller travailler tous les jours. Eh bien, lui, on l'a épargné. Voilà pour votre histoire, Alizée, tirée directement du livre que vous publiez chez Grasset avec Sophie Boutboul, « Silence, on cogne ». Alors vous écrivez dans le livre que vous ne comptez pas en rester là, qu'il manque 4 mois de coups que vous avez subis, qui n'ont pas fait l'objet de procès à ce jour, et notamment cette menace de vous tuer à coups de couteau. Menace d'ailleurs pour laquelle vous détenez un enregistrement. Est-ce que vous avez avancé là-dessus ?
Alors en fait, je ne compte pas forcément lancer une démarche, des poursuites juridiques à son encontre. C'est contre surtout les gendarmes qui ont été défaillants dans ma prise en charge, dans mes différentes prises en charge.
Vous vous êtes lancé dans du lourd, là ?
Je me suis lancé dans du lourd.
Vous attaquez à l'institution ?
Oui, j'ai déposé cette plainte l'année dernière, et donc devant le procureur de la République. Et cette année, au mois de septembre, il a classé sans suite cette plainte.
Mmh. Donc vous pouvez vous constituer partie civile ?
Je me constitue partie civile devant le doyen des juges d'instruction.
C'est risqué ? Si vous n'y arrivez pas, vous devrez payer.
Oui.
Votre avocat vous l'a dit.
Oui.
Il y a notamment, par exemple, cette main courante qui a disparu de l'ordinateur de la gendarmerie. Une bonne expertise informatique faite par un bon labo devrait la retrouver.
Alors, en fait, elle était déguisée. C'est que moi, j'ai véritablement eu, sur le moment, la sensation de déposer plainte. Parce que c'est bien écrit noir sur blanc, je dépose plainte pour les faits mentionnés ci-dessous.
Oui.
Sauf que... En réalité, la façon dont le document est constitué, ce petit encadré qu'il y a en bas du document, montre que c'est un renseignement judiciaire.
Mais lui-même a disparu, ce renseignement judiciaire.
Ah oui, dans la base de données. Moi, j'ai une copie de ce document que j'ai fourni donc à l'inspection générale de la gendarmerie nationale.
Ouais.
Et en effet, l'enquête administrative prouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de traces de ce document.
Ça va être dur de faire condamner la gendarmerie pour la négligence. Vous faites la même démarche que ceux qui attaquent le cardinal Barbarin dans sa ville de Lyon parce qu'il a couvert un curé pédophile. C'est-à-dire, c'est très dur d'atteindre le haut de la pyramide.
Tout à fait.
On va reprendre votre histoire au début dans un instant parce qu'elle est intéressante d'un bout à l'autre. À tout de suite, je rappelle le titre de ce livre qui paraît chez Grasset que vous co-signez avec Sophie Boutboul. Silence, on cogne.
14h-15h, Ondelat raconte sur Europe 1.
La suite d'Ondelat raconte avec Christophe Ondelat et son invité, c'est dans un instant sur Europe 1, juste après ce souvenir de 40 ans. Et oui, ça fait 40 ans que nous dansons et chantons à tue-tête sur ce titre de téléphone, Un autre monde, premier extrait de l'album éponyme. Alors je veux vous entendre chanter, vous monter le son et vous profiter sur Europe 1.
Je rêvais d'un autre monde.
Un autre monde, l'un des plus grands succès de Téléphone, le premier extrait du dernier album éponyme du groupe, sorti en 1984. Ce sera le seul album qui leur permettra de remporter une victoire de la musique et celui qui marquera leur séparation. On retrouve Christophe Ondelat maintenant et son invité pour la suite d'Ondelat raconte sur Europe 1.
Europe 1,
14h-15h, Ondelat raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Alizé Bernard, qui est là avec moi, victime de violences conjugales de la part d'un compagnon gendarme. Histoire que j'ai tirée du livre qu'elle publie chez Grasset, avec Sophie Boutboul, « Silence, on cogne ». Alors quand vous le rencontrez, au tout début, il est en instance de divorce. Est-ce que vous savez aujourd'hui s'il a déjà été violent avec sa compagne précédente, qui était en l'occurrence sa femme ?
Non, j'ai pas eu plus d'infos que ça et c'est pas des choses que sur lesquelles il se serait penché ou des confidences qu'il aurait pu me faire au début de notre rencontre.
Vous savez d'où lui vient cette violence qu'il ne semble pas contrôler puisqu'il la regrette juste après.
Je sais pas. C'est quelqu'un de sain à la base, c'est quelqu'un qui fait du sport, qui ne fume pas, qui ne boit pas, donc il ne se drogue pas non plus, donc il y a même pas de facteur extérieur qui pourrait finalement engendrer ce type de violence. Mais
il a été battu lui-même ?
Non.
Il n'a pas cherché à raconter ça devant le tribunal en tout cas.
Non, du tout.
Alors le premier coup de poing. C'est là que se trouve au fond le nœud de votre histoire parce que il vous fracasse la mâchoire. Ce qui vous empêche d'obtenir votre BTS. C'est la première fois, dites-vous, qu'un homme vous frappe. Vous avez 18 ans en même temps, donc assez peu d'expérience des hommes. Et c'est à ce moment-là qu'il faut partir.
Oui.
Qu'il aurait fallu partir. Et comme explication, vous dites « je l'aime ».
Oui.
Et ça doit bien vous travailler, ça.
Tout à fait.
D'aimer un homme qui vous frappe.
Bah sur le moment, j'y crois vraiment quand il me dit « je suis désolée », qu'il se met à pleurer, « je recommencerai plus »,« t'es la femme de ma vie », c'est quelque chose qui vous prend aux tripes. Au final, vous vous dites « bon, bah, il est conscient de ce qu'il a fait, il le regrette ».
Il le refera pas.
Il le refera pas.
Donc c'est la deuxième fois qu'il faut partir.
Oui, ça devrait être la deuxième fois, en effet.
Et la deuxième fois, vous dites « je me suis raccrochée au fait qu'il m'aimait ». Vous étiez en dépendance d'amour, en fait.
Possible.
C'est un truc où vous attendiez que quelqu'un vous aime totalement, entièrement, et c'est le piège qui s'est refermé sur vous, en fait, puisque c'était lui.
Je sais pas véritablement comment ça se met en place. C'est que on a traversé des choses ensemble, et pour moi, il évoque des faits, des choses qui se passent dans sa vie pour justifier ce qui se produit.
Le stress du boulot.
Le stress du boulot, le stress de ce qui peut se passer.
Le maintien de l'ordre, il est garde mobile, hein, donc c'est
gendarme mobile.
Gendarme mobile, donc c'est quelqu'un qui, par exemple, intervient sur des manifestations.
Oui.
Voilà. Et donc il évoque ça.
Pas que ça, aussi ce qui peut se passer au niveau familial, mais c'est une excuse, en fait. Il n'y a pas d'excuse au fait de frapper sa compagne. Mmh. Et sur le moment, je l'entends. Et comme c'est pas quelque chose de régulier, de coutumier, c'est pas tous les jours. C'est pareil, on parle des violences conjugales, mais on parle pas finalement du fait que à partir du moment où il y a même qu'un seul coup, on est victime de violences conjugales.
Mais ce que les gens peineront toujours à comprendre, et je suis sûr que typiquement vos parents ont dû en parler des heures avec vous, c'est pourquoi t'es pas parti la première fois, pourquoi tu nous en as pas parlé la première fois. Vous en parlez à une copine à un moment.
Oui.
Alexandra, dans mon souvenir.
Tout à fait.
Je l'ai pas évoqué dans le récit. Et vous lui dites pas tout, hein, d'ailleurs. Vous lui dites pas qu'il recommence.
Oui, enfin, elle est là le lendemain de du coup au niveau de la mâchoire. Et donc, je lui dis clairement que c'est un coup, c'est un fait de violence et que c'était pas du tout lié à la boxe ou quoi que ce soit. Enfin, ce qu'il avait pu lui exposer comme excuse. Et après, pour les autres faits de violence, non, je lui en parle pas.
Et à vos parents, jamais.
Mes parents, jamais.
Parce qu'au moment où il est question de porter plainte et où vous tergiversez, ce qui est une erreur. Vous auriez dû évidemment porter plainte le jour même, parce que ce jour-là, il pouvait pas vous la refuser, et le lendemain, il trouve un échappatoire. Vous dites, il faut que je m'assure que mes parents vont me soutenir. Je sais pas, je les connais pas, vos parents, mais j'ai une sorte d'intuition qu'ils vont vous soutenir, évidemment.
Alors, soutenir, oui, mais c'est surtout que j'étais dans une situation précaire, à ce moment-là également.
Ouais.
J'étais en licenciement économique,
ouais.
J'avais repris mes études,
ouais.
Et se lancer dans des procédures, ça coûte extrêmement cher. Donc j'avais besoin de leur soutien et moral, physique et financier.
Ouais. Je rappelle le titre de votre livre, Silence on cogne, livre que vous avez coécrit avec Sophie Boutboul et qui paraît chez Grasset. On va maintenant parler du fait qu'il est gendarme. Et vous avez cette phrase, je n'ai pas compris la puissance d'un uniforme. À tout de suite.
Europe 1.
14h, 15h, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire d'Alizée Bernard qui est là en face de moi, victime de violences conjugales de la part d'un compagnon gendarme. Histoire, Alizée, que j'ai tirée de votre livre publié chez Grasset et que vous avez coécrit avec Sophie Boutboul. Silence, on cogne. Il faut qu'on en vienne donc au fait qu'il est gendarme et que, sans doute, ça change pas mal la donne. Je n'ai pas compris, écrivez-vous, la puissance d'un uniforme. C'est-à-dire que vous-même, au fond, le fait qu'il ait un uniforme vous impressionne.
C'est surtout les menaces qui sont associées aux violences qui m'impressionnent. Et sur le moment, je pensais pas que on pouvait finalement le laisser dans une impunité totale en étant auteur de violences conjugales.
Alors, il y a un moment où il vous dit, et on se demande si les voisins ont entendu, hein, la fois où il vous balance contre la table basse, et il vous dit, à la caserne, il y a beaucoup de gendarmes qui frappent leurs femmes. Est-ce que c'est vrai ?
Ah oui, c'est ce qu'il m'a dit. Après, j'avais pas de contact avec les autres femmes à la caserne. J'ai suivi les règles.
Oui.
Donc, je ne sais pas, au final, si véritablement il y en avait d'autres qui étaient victimes de violences conjugales. J'en ai pas entendu, mais je pense que ce soir-là, on m'a entendu. Par
oui. Vous êtes sûr qu'on vous a entendu ?
Ah, persuadé.
On entend tout.
On entend tout. Donc, forcément, le bruit, les claques et les cris ont fait que les voisins ont entendu.
Le fait que des gendarmes qui sont censés défendre donc le droit, la veuve et l'orphelin, dites-vous, battent leur femme, c'est lié à quoi, d'après vous ? Est-ce que c'est lié à un sentiment d'impunité ? C'est-à-dire ils peuvent le faire, ils sont à peu près certains qu'il leur arrivera rien. Ou pas ?
Non, je pense pas. Je pense que véritablement, la difficulté dans le fait qu'ils soient gendarmes, c'est surtout quand on cherche à déposer plainte. Je pense pas que ce soit un facteur pour être violent avec sa compagne. Il y a des gendarmes et des policiers qui sont très bien.
Ouais.
Tous ne sont pas comme ça, quand même.
Ouais. Ça n'est pas lié au fait qu'ils savent qu'il leur arrivera rien. Parce que ce qui est intéressant, c'est que en ce moment, face à la question des violences conjugales, un certain nombre de gens disent il faudrait durcir les sanctions. Et il faudrait les incarcérer tout de suite, c'est-à-dire les écarter de manière à ce qu'ils ne puissent pas revenir et frapper à nouveau. Et en fait, quand on regarde l'histoire du crime, on n'a jamais mis autant de gens en prison en France, et le crime ne baisse pas pour autant. C'est-à-dire qu'il n'est pas certain que la menace d'une sanction empêche les gens de frapper. Quand ils frappent, ils le disent, je suis en stress, et c'est physiquement que ça s'exprime. Et donc là, il n'y a pas la raison, il ne réfléchit pas. Il dit pas « Ouh là là, je risque de me faire avoir ».
Non, du tout.
Vous décrivez très bien, évidemment, la relation de corps, de corporatisme qu'il y a dans la gendarmerie, qu'on peut sans doute d'ailleurs rapprocher, je sais pas, de la manière dont les évêques ont protégé les curés, dont les proviseurs de lycées ont protégé les profs, dont les hommes politiques ont protégé les hommes politiques pendant des années. C'est assez humain. Ce sont des corps très solidaires.
C'est assez humain, mais en même temps, c'est gravissime. Et
voilà.
Je pense notamment au cas qu'on évoque dans la partie enquête du livre de Karine, 24 ans, qui a été tuée par son ex-compagnon de 3 balles dans la tête, devant son fils.
Et donc, il était, lui, policier.
Policier, et il l'a tuée avec son arme de service. Elle avait déposé plainte, elle avait signalé les faits, elle avait appelé le 17, donc ils n'étaient plus ensemble, et pourtant... Quand la gendarmerie à l'époque est intervenue, ils lui ont donné une tape sur l'épaule en lui disant qu'on ne te revoit plus ici. Enfin, là, c'est même l'esprit de corps, c'est même entre la police et la gendarmerie, simplement parce qu'ils sont représentants de la loi. Clair.
Parce qu'il y aurait une solution, c'est que quand on veut accuser un gendarme, on aille à la police, et quand on veut accuser un policier, on aille à la gendarmerie. Et parce qu'on sait qu'il y a la guerre des polices entre eux. Mais non.
Mais non. Parce qu'en plus, l'enquête ne va pas forcément être au profit de l'autre corps de métier. Enfin, c'est pour la police quand c'est un gendarme ou la gendarmerie quand c'est un policier. Ça peut revenir aussi sur le secteur et traité par les gendarmes directement. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément. Il n'y a pas de certitude dans le fait d'aller déposer plainte justement en commissariat ou en brigade à l'inverse. Ni même devant le procureur de la République, puisque l'enquête après doit être menée et donc est redonnée aux enquêteurs.
Les gendarmes sont des militaires, alors ça change un peu la donne quand même, parce que il y a chez les militaires quelque chose qui relève de l'énorme solidarité, presque de la fraternité, de principe quand même. Vous l'avez ressenti, ça?
Ah oui, j'ai beaucoup entendu, on est des frères d'armes.
Oui.
Donc oui, je l'ai ressenti.
Et lui, il était très comme ça?
Ah oui. Très, très engagé auprès de ses collègues, c'est une famille au final. Ouais. C'est une grande famille.
Ils bossent beaucoup tous?
Beaucoup, oui.
Ouais. Et ils sont tout le temps ensemble, entre mecs?
Tout à fait, ils passent énormément d'heures ensemble.
Notamment les gendarmes mobiles?
Oui.
Quand ils partent en Martinique, ils partent tous ensemble?
Oui.
Ils se racontent toute leur vie?
Ah oui, c'est la famille.
Les maîtresses, ils sont tous au courant?
Ah oui.
Merci en tout cas, Lise, d'avoir accepté de me confier votre histoire. Je renvoie donc à ce livre qui a la vertu de partir de cas précis et d'élargir et de rendre compte d'un vrai phénomène dont personne n'avait jamais parlé, qui sont donc les coups portés par des gendarmes et des policiers sur leurs femmes, sujet jamais évoqué. Ce livre s'appelle « Silence, on cogne ». Il paraît chez Grasset. Il est signé donc Alizé Bernard et Sophie Poutpoul. Merci infiniment. Je reviens demain matin, 6h. Sur votre application de podcast. Et si vous voulez m'entendre à la radio, alors il faudra attendre jusqu'à 2h de l'après-midi.
C'était Christophe Ondelat que vous retrouvez en effet demain entre 14h et 15h pour un nouveau numéro d'Ondelat raconte et à réécouter sur le site et l'application Europe 1. Et parmi les émissions dominicales d'Europe 1, il y a « Dis-moi ce que tu chantes » présenté par Didier Barbelivien de 17h à 18h. Une heure d'entretien pendant laquelle son invité dévoile les 5 chansons qui ont marqué sa vie. Et tout à l'heure, Didier Barbelivien recevra Nicolas Perrac.
Le vol de nuit s'en va, destination Bahia, Buenos Aires ou Cuba. Je pars, prends soin de l'opéra, de la rue des Lilas. Dis-leur que cette fois.
Dis-moi ce que tu chantes, Didier Barbelivien reçoit Nicolas Perrac. C'est tout à l'heure, comme chaque dimanche de 17h à 18h sur Europe 1. Votre après-midi se poursuit maintenant avec Au cœur de l'histoire, présenté par Virginie.